les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Les préservatifs sont de retour pour une nouvelle saison. Comme l'année dernière, je vous propose de partir des faits d'actualité pour les éclairer à la lumière des grands philosophes. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur le périple de la flamme à Marseille au début du mois de mai 2024. Au-delà de l'auto-congratulation des autorités qui ne virent aucun incident éclaté au cours de cette première course, il y eut des voix pour s'interroger sur le bien fondé d'une telle célébration. Des râleurs, me direz-vous, des peines à jouir, pour reprendre l'expression de la maire de Paris. Mais pas que. Il y eut aussi des associations pour se plaindre du comportement répréhensible et irrationnel des foules au passage de la flamme, avec des conséquences préjudiciables. Prenons l'exemple des célèbres calanques de Marseille, bijoux fragiles. Tout à chacun, c'est le respect qu'il faut lui consacrer. Et pourtant, des centaines de déchets restèrent après le passage de la flamme, en mai dernier, au grand désespoir de ces associations.
Au revers de la médaille, justement, d'avoir accueilli cette flamme, bah, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc, qui dit plus de monde, dit bah, accumulation de déchets. Ils viennent manger, ils viennent boire, ils laissent tout, quoi. Donc là, clairement, on a toute la route des gouttes. Je pense que vous pouvez aller jusqu'à Calongue, c'est rempli de déchets.
Pourquoi, lorsqu'on est au sein d'une foule, on se comporte souvent de manière totalement irresponsable ? Pourquoi perd-on tous ses réflexes citoyens ? Pourquoi s'accorde-t-on des droits et des passe-droits qu'on condamne lorsqu'on est extérieur à cette foule ? La réponse est dans la question. Être dans une foule, ce serait ne plus exister en tant qu'individu. Mais faire partie d'un ensemble qui nous avale, qui digère notre singularité et qui recrache des pions au comportement collectif. Un penseur français, Gustave Le Bon, écrivit une psychologie des foules en 1895. Voilà la définition de la foule qu'il proposa. C'est une agglomération d'hommes où il se forme une âme collective, transitoire sans doute, mais présentant des caractères très très nets. Évanouissement de la personnalité consciente, contagion des sentiments et des idées dans un même sens. La foule va submerger l'individu jusqu'à ce qu'il disparaisse. Dès lors, dominé par l'anonymat, l'individu est comme une cellule d'un corps vivant. Il y a une contagion des idées et des émotions, et ce d'autant plus vite et de manière plus remarquable s'il y a un meneur. Ce que les individus ne se seraient pas permis de faire, la foule ose et use de sa force pour devenir outrageante, menaçante et dangereuse. Ce schéma semble si proche de la réalité, que ce soit les foules allemandes devant un discours d'Adolf Hitler, ou la masse de spectateurs irrespectueux au cours d'une manifestation quelconque, ou bien les terribles piétinements lors de certains pèlerinages religieux.
Le pèlerinage de la Mecque, c'est un cas d'étude incontournable pour tous les chercheurs qui s'intéressent au mouvement des foules. D'abord parce que c'est le plus grand rassemblement humain connu. Le nombre de pèlerins a atteint 3 millions de personnes en 2012, ce qui est vraiment beaucoup. Alors ce nombre s'est ensuite réduit pour des travaux d'aménagement, puis à cause du Covid, mais il est de nouveau reparti à la hausse depuis l'année dernière. En comparaison, la foule gigantesque qui s'est réunie sur les Champs-Élysées après la victoire de l'équipe de France en 2018 n'était que de 300 000 personnes. Avec autant de monde, le rassemblement est aussi un des plus dangereux en termes de gestion de foule. Depuis les années 90, la Mecque est le théâtre de bousculades à répétition qui font à chaque fois entre quelques dizaines et plusieurs milliers de morts.
Tout semble dire que, parce que la responsabilité individuelle se dissout, la conscience de ses actes suit le même chemin et la foule devient un être collectif avec sa propre personnalité. Mais l'affaire n'est pas si simple. Gustave Le Bon était un penseur du 19e siècle. Et sa théorie va lui servir à classer les foules, voire à développer également un discours raciste. Dans d'autres ouvrages, il indique qu'une foule d'Africains n'aurait certainement pas les mêmes caractéristiques qu'une foule d'Européens. L'une et l'autre montrant ainsi les différences entre les races, et justifiant sans doute le colonialisme. Lire Gustave Le Bon, sans recul ni précaution, c'est donc avoir un discours qui va pouvoir servir et justifier les condamnations morales de la foule ignorante, la foule dangereuse, celle des ouvriers, par exemple, qui défilaient au XIXe siècle pour défendre leurs droits. À ce titre, ça peut servir à un discours politique toujours valable aujourd'hui. La foule qui manifeste ne penserait pas. Les gilets jaunes cassent, les écolos deviennent des terroristes, etc. La foule inconsciente, celle de ceux qui ne savent pas, bien entendu. Et il faut la contrebalancer par le Conseil ou l'Assemblée des sages. Eux savent, donc doivent diriger les premiers.
Après le débrayage de Renault, la grève atteignait Citroën, que la troupe devait faire évacuer pour maintenir la liberté du travail. La L'agitation s'était étendue aux mines du Nord, où 80% des mineurs avaient abandonné les puits. Cependant, dans tous les domaines, la grève se heurtait à des oppositions ouvrières, et l'on constatait, après l'amorce d'une reprise dans le Nord, une extension du mouvement dans le Sud. À Paris, une nouvelle grève, celle de la meunerie, menaçait le ravitaillement. Le gouvernement faisait assurer le travail et les livraisons par les troupes du génie.
En réalité, la question qui nous taraude, lorsqu'on fait de tels constats, c'est « Sommes-nous réellement des individus libres, de vraies personnalités, ou au final comme des fourmis obéissant à un inconscient collectif ? Notre individualité ne serait-elle qu'une illusion ? Ou bien au contraire, la foule ne serait-elle pas un concept abstrait pour permettre aux individus de se cacher, de se masquer derrière les autres, pour oublier leurs responsabilités individuelles ? Après tout, même si empiriquement nous pouvons voir des foules et que ces déplacements de masse obéissent à la physique des fluides, c'est-à-dire grosso modo nous ressemblons à des particules de gaz lorsque nous nous mouvons au sein d'une foule. Est-ce que pour autant les notions de contagion et de meneur dans une foule tiennent vraiment ? L'idée que nous sommes plus courageux, moins altruistes, moins rationnels parce que notre surmoi serait noyé par le collectif, est-ce que cela peut vraiment tenir ?
Les gens se soulagent dans de petites aventures, des lits mineurs anodins, des saccages sans demain. J'aime pas les gens, on ne fait pas bon ménage. J'aime pas qu'ils me dévisagent, j'aime pas qu'ils me dévisagent. J'aime pas qu'ils se figurent des promesses, des procédures, en dessous les doigts, au-dessus des lois, aux toucheurs intouchables. J'ai pas le temps et ils n'entendent rien, c'est sûr. Les gens sont toujours ouverts derrière leur fermeture.
Won't you put the fuck and hit the road, my friend?
Il y a eu de grands lynchages perpétrés par des foules, des revendications et même des révolutions provoquées par la foule. Mais est-ce que pour autant l'individu doit être oublié, accusant une masse dont on ne contrôlerait pas le comportement ? Je répète mon argument. Le concept de foule servit longtemps pour désigner un être mauvais, opposé à la sagesse. La foule serait folle, la foule serait dangereuse. Les manifestations de la foule seraient à bannir face à la sagesse de ceux qui savent. Mais n'y aurait-il pas dans l'idée même de foule, idée née simplement au XIXe siècle, comme pour condamner moralement des gens du peuple qui faisaient tant de révolutions ? N'y aurait-il pas une volonté de montrer la différence avec l'élite ? Nous pouvons faire une petite phénoménologie des foules pour répondre à cette question. La phénoménologie, c'est un courant de philosophie qui analyse l'apparition d'un phénomène de la pensée, normalement en évitant tout jugement de valeur. Néanmoins, lorsqu'on parle de foule, il y a déjà une intention dans notre analyse. Nous voulons décrire un phénomène que nous avons conceptualisé préalablement. Prenons un exemple. Je vois un nombre assez considérable d'individus dans la rue. Ces individus n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils ne sont pas là pour une raison particulière ou parce qu'ils partagent des valeurs communes. Ils sont juste là parce que c'est leur chemin pour rentrer chez eux. Ils empruntent un trottoir et à cet égard obéissent à une fluidité des mouvements qui obéissent à des lois de la physique, mais aussi à des lois culturelles. Nous sommes conditionnés par notre éducation et les mouvements obéissent aux lois des fluides. Cependant, nous ne restons pas moins des individus qui pensent, qui choisissent. Nous ressemblons à un banc de poissons, mais ça ne veut pas dire que nous sommes juste des sardines. Nous sommes des êtres humains avec notre dignité et notre rationalité, avec nos valeurs morales et nos préoccupations. Les gens de cette foule qui se pressent sur le trottoir sont néanmoins indifférents à l'égard d'une misère sociale. Un SDF sur le trottoir demande de l'aide et personne ne le regarde.
Égoïste, où es-tu ?
Montre-toi, misérable, prends garde à mon courroux.
Mais est-ce une foule qui est ainsi indifférente ? La réponse serait oui, si j'ai déjà en tête cette idée de foule, ce concept. Dès lors, j'orienterai mes recherches de manière à trouver à cette foule des caractéristiques propres aux foules. Mais y a-t-il un seul élément qui n'existe pas chez un individu? L'indifférence à la misère de l'autre? La peur? L'instinct de survie en cas de bousculade? On peut me dire, regardez, une foule est inconsciente et obéit à des sentiments primaires. Les exemples seraient innombrables. Mais il y a au moins autant d'exemples de foules intelligentes et subtiles. Prenez une foule lors d'un concert de charité. Ou une foule lors d'un congrès d'éminents spécialistes d'une maladie rare. Eux aussi obéissent à des émotions primitives, à une forme de contagion qui leur échappe. En réalité, personne ne le prétendrait, car ces foules sont valorisées socialement. Et on mettrait en avant les qualités individuelles des participants. Ce qui me fait dire que le concept de foule est vraiment élastique. On lui fait dire ce que l'on veut. Récapitulons donc. Ces individus qui ne furent pas capables de récupérer leurs déchets au passage de la flamme olympique. Peut-on dire que leur comportement fut celui de la foule? Ne serait-ce pas trop facile? La responsabilité individuelle ne doit-elle pas être remise au cœur de nos discours pour cesser d'excuser les débordements?
Emporté par la foule, on se réunit pour des trucs banals. Pour le foot, on crie au scandale.
Pendant que des mecs construisent des stades en sandales.
Tu crèves la dalle, on s'emballec. On ferait la guerre pour 100 balles. J'ai, on brandit pas l'étendard. Pays d'alcoolique, tu fais pas la fête, tu te fusilles au bar.
Dimanche soir, devant la télé comme des bofs, dans une baraque à crédit. La France a un incroyable talon d'Achille. Je fais de la musique, pas de la magie.
Je pourrais jamais remplacer toute une foule qui agit.
Un savoureux mélange pour tes babines.
La France est du reblochon et du tagine.
Emporté par la foule, je me défoule dans un pogo comme un fou. Pour oublier qu'on est tous dérangés. Entraîné par la foule, je vais être frappé par un coup de foudre. Un peu de buzz, une bonne buzz et jamais l'oublier.
En vrai,
la foule m'angoisse, je sais pas pourquoi je suis là.
Je passe à la télé, je suis connu que dans mon village.
Je suis pas fait pour ça, tu peux le voir sur mon visage.
La famille parfaite, mais une équipe de tocards.
Ça parle couille, frère, on vient, on se casse.
On vient tout niquer, fallait pas nous casser.
Il phénomène en famille, c'est la classe.
Frappe du doigt, la guitare va te tarter.
Je remercie RPHU des radios Pays d'Hérault d'avoir permis la réalisation de cette chronique, et tout particulièrement Solène pour la prise de son et la technique, ainsi que Samuel pour le montage. Vous pouvez retrouver ces chroniques publiées aux éditions BOD sous le titre « Chronique par Mont et par vous ». Et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.
Et surtout, ne te retourne pas.